Estéreo.
Radio Prague, les informations.
Une conférence du parti gouvernemental Affaires publiques se tient à Prague. Václav Havel a soutenu le dissident chinois Liu Xiaobo. La lumière de Bethléem est arrivée en Tchéquie. Ouverture ce samedi à Prague de la conférence du parti gouvernemental Affaires publiques, qui se tient à huis clos. Le discours d'inauguration a été prononcé par le chef du parti Radek Jön. La conférence devra définir les futures priorités de ce nouveau parti parlementaire qui a recueilli 11% des suffrages lors des élections législatives de mai dernier. Depuis, le nombre de ses sympathisants semble diminuer. À l'occasion de la journée des droits de l'homme, incombant à ce vendredi 10 décembre, l'ex-président tchèque Václav Havel a rencontré les représentants de l'association à but non lucratif People in Need et plusieurs signataires de la charte 77. Ils ont discuté notamment de la situation en Chine et ont exprimé leur soutien au dissident chinois Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix. Quatre représentants de la branche tchèque d'Amnesty International ont tenté en vain de remettre une lettre de félicitations à l'ambassade de Chine en Prague. Les mesures anti-crise négociées en février dernier avec l'ancien gouvernement tchèque de Jan Fischer sont mortes, c'est ce qu'a déclaré le vice-président de l'Union de l'industrie et des transports Jaroslav Horák lors de la réunion du Conseil d'entente économique et sociale qui s'est tenue à Prague. Le premier ministre Petr Nečas et le prima tchèque Dominik Duka ont discuté des questions concernant les rapports patrimoniaux entre l'État et les églises. Il en ressort que des équipes de négociateurs devraient être constituées d'ici au début de l'année prochaine pour mettre en œuvre un nouveau projet de règlement de ce problème épineux. Petr Nečas et Dominik Duka se mettent d'accord sur ce qu'il faut trouver pour cela un large consensus et faire preuve de volonté et d'un esprit de compromis. Prague, nous vous l'avons déjà dit, sera le lieu de siège de l'agence européenne qui gère le projet Galileo. Les ministres européens de l'industrie ont pris la décision vendredi. C'est un immense succès pour la République tchèque. C'est félicité le ministre des Transports, Vít Bárta. Symbole de joie et de paix, la lumière de Bethléem arrive ce samedi en République tchèque. Comme chaque année, les scouts autrichiens allument une lumière dans la grotte de la Nativité à Bethléem et l'emportent jusqu'à Vienne, où des délégations de toute l'Europe viennent la chercher pour la diffuser dans leur pays. La République tchèque s'est jointe à cette tradition en 1989. Météo, le ciel sur l'ensemble du territoire est à moitié couvert. Des chutes de neige sont prévues pour la journée de dimanche. Elles pourront apparaître déjà dans la soirée dans le nord du pays. Les températures diurnes se situent au-dessus de zéro. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Rencontre littéraire. Amadis de Gaulle, héros le plus populaire des romans de chevalerie du XVIe siècle, n'a pas disparu avec son temps. Sa trace dans la culture occidentale réapparaît plusieurs fois par la suite et il attire surtout les compositeurs lyriques dont Jean-Baptiste Lully, Georg Friedrich Händel, Jules Massenet et aussi Johann Christian Bach. Ce fils du grand Johann Sebastian Bach, surnommé le Bach de Londres, est l'auteur de l'opéra Amadis de Gaulle qui a donné aux aventures fabuleuses du chevalier sans peur et sans réproche approche, une forme musicale très novatrice pour l'époque. L'opéra écrit sur un livret français a été créé à Paris en 1779. Il semble qu'aujourd'hui cette œuvre de Johann Christian Bach commence une nouvelle vie. Un des artisans de la redécouverte de l'opéra, le chef d'orchestre Didier Talpin, a présenté le 1er décembre 2010 cette œuvre à l'Opéra d'État de Prague avec une distribution internationale et un orchestre composé de musiciens tchèques et slovaques. Parmi les solistes, il y avait la soprano Riady Stebo et le baryton Pierre-Yves Pruvot qui ont bien voulu évoquer Amadis de Gaulle de Johann Christian Bach. Au micro de Radio Prague, voici la seconde partie de cet entretien. Que cet opéra vous a posé aussi des problèmes techniques, je pense au problème de la technique vocale.
Je dirais que non, pas spécialement. C'est exigeant comme musique et comme écriture, mais c'est extrêmement bien écrit pour la voix. Il n'y a pas de difficultés insurmontables, je dirais. Et personnellement, non, j'ai pas ressenti de difficultés et même au contraire, j'ai trouvé que c'était quelque chose de, un rôle très confortable vocalement et qui permet justement par ce confort d'exprimer tout ce qu'on peut avoir envie d'exprimer parce qu'on n'est pas bloqué par quelque chose de technique qui vous obnubile et qui vous empêche d'exprimer les sentiments. Donc, en ce qui me concerne, non, c'est même plutôt un rôle très agréable à chanter.
De mon côté aussi, en fait, il faut aussi penser que depuis quelques années a commencé une redécouverte de toute cette période de l'opéra français entre 1780 et 1850 où on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose parce qu'il n'existe pas l'enregistrement, parce qu'il n'existe pas d'édition. Grâce à l'un des partenaires de ce projet, le Palazzetto Bruzzane, une grande campagne de redécouverte de ce répertoire est en cours et on a la chance ici d'avoir une équipe de chanteurs qui, depuis plusieurs années, se plie à la redécouverte du répertoire de cette époque-là et qui commence à avoir aussi, on va dire, des habitudes et des réflexes pour cette musique-là, pour la façon de la chanter, de dire le texte, d'interpréter la musique. Et ce qui donne effectivement un certain confort aux interprètes parce qu'on est dans un... Même si l'œuvre est inconnue, on est dans une continuité maintenant d'une histoire de la musique et on sait ce qui s'est passé avant, on sait ce qui s'est passé après et on vient un peu renouer les maillons qui manquent. Et donc ça apporte beaucoup de confort parce qu'on n'est pas non plus dans un territoire complètement inconnu.
Quelles sont les qualités purement musicales de cet opéra qui est comparé parfois à Don Giovanni de Mozart et à Fidelio de Beethoven? Est-ce que ce sont des comparaisons justes?
Ce qui est évident, c'est que Mozart connaissait très très bien Johann Christian Bach. Il avait beaucoup d'admiration. C'est bien possible que Mozart ait entendu des répétitions à Paris à l'époque, puisqu'il était à Paris à la même époque, et qu'il ait eu entre les mains la partition à un moment donné et qu'il la lise. On trouve des choses qui sont recitées dans l'œuvre de Mozart plus tard, mais comme on en trouve dans les opéras de Gossec ou on en trouve chez Grétry aussi, puisque Mozart était un affamé de lecture de nouvelles partitions. Donc quand Mozart est venu à Paris, il a beaucoup, beaucoup lu de musique de l'époque. Maintenant qu'on commence à redécouvrir ses autres musiques, on voit que Mozart a forcément lu ces choses-là, même si on sait que à deux endroits différents peuvent naître des choses très proches. Mais là, c'est évident qu'il y a eu quand même une connaissance du style de l'époque. Alors, Johann Christian Bach aussi a composé cet opéra dans un contexte assez particulier, puisqu'il y avait à cette époque-là à Paris ce qu'on appelait la querelle des bouffons, où on opposait la musique italienne à la musique allemande de Gluck. Et donc, les compositeurs français choisissaient un peu soit le camp italien, soit le camp allemand. Et Johann Christian Bach, lui, était allemand de formation. Mais ce qui est très, très impressionnant, c'est que cette œuvre est quand même très française par le ton Johann Christian Bach parlait remarquablement bien français. Il y a quasiment aucune faute de prosodie dans la partition. Parfois, vous avez un compositeur qui écrit dans une langue qu'il ne maîtrise pas, et c'est assez maladroit. Ici, c'est pas le cas du tout. Le français est très bien déclamé. Et la grande nouveauté, enfin la grande chose remarquable de cette partition, c'est que tous les récitatifs sont accompagnés à l'orchestre, ce qui se faisait assez peu à l'époque. On avait quelques récitatifs accompagnés à l'orchestre, le reste était accompagné au clavecin avec une basse de viol. Ici, tous les récitatifs sont accompagnés au moins par l'orchestre à cordes et parfois avec des instruments, notamment dans la scène du tombeau, où on entend la voix d'Ardan Canil, la voix cachée. Là, vous avez tout l'orchestre qui joue avec un accord, qui avec les trombones, les clarinettes, les bassons, etc. Donc c'est assez rare. Ça, pour le coup, c'est plutôt allemand, mais traité dans un ton très français. Et c'est vrai que, par exemple, cette scène au tombeau évoque absolument la voix de la tombe dans Don Giovanni, la voix du commandeur. Donc, même si Mozart reprend pas exactement les mêmes choses, il est dans le même esprit. Voilà. Donc, c'est des choses qui ont existé avant, des choses qu'on connaît mieux maintenant. Donc, on remet finalement les choses à leur place en découvrant tous ces opéras qui ont disparu.
Beaucoup de choses inspirées de Gluck aussi, certaines parties chorales où on sent quand même aussi les rapprochements avec Gluck. Et puis, je trouve aussi que Bach a un très très grand sens théâtral dans cette œuvre. La musique est vraiment écrite d'un point de vue de déclamation que je mettrais presque parfois en lien avec la tragédie lyrique française comme on avait à l'époque de Lully où tout était très déclamé. Mais en même temps, dans le style de Bach, là, ça n'a quand même rien à voir stylistiquement, mais il y a des rapprochements, je trouve, dans la façon de traiter le texte. Et puis, c'est une musique très, très expressive aussi, et on est presque étonné que cet opéra n'ait pas connu plus de représentations, même à notre époque, parce que il y a vraiment, musicalement, c'est extrêmement riche, et théâtralement aussi.
Vous dites que maintenant, Amadis sera mis en scène, donc ce sera une production avec une mise en scène des décors, des costumes et tout cela. Et est-ce que vous allez participer aussi à cette production ?
A priori non, parce que c'est organisé par un tout autre circuit, on va dire, donc non, on essaiera par contre d'aller la voir, parce qu'on sera évidemment très intéressé de voir cette œuvre en scène et comment un metteur en scène peut traiter justement ce texte, cette musique. Et puis je crois qu'il normalement il est prévu que les décors d'époque soient reconstitués aussi, donc voilà. Alors ça sera, je pense, non seulement une curiosité, mais également quelque chose de très intéressant, et surtout, j'espère que ça fera rentrer l'œuvre au répertoire de certains théâtres, parce que c'est vraiment une œuvre absolument magnifique.
C'était la seconde partie de notre entretien avec Yardis Thébault et Pierre-Yves Pruvot sur l'opéra Amadis de Gaulle de Johann Christian Bach. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Pavel Kahoun, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Larguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha.
Pour cette fois, nous allons nous intéresser à l'étymologie des appellations tchèques des 7 jours de la semaine. Essayez de comprendre pourquoi le dimanche se dit
neděle
ou le jeudi
čtvrtek.
Mais commençons notre semaine avec le vendredi
pátek
et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Zkoušej to na mě, vždyť já nějaký ten pátek už tě znám. Chanteuse tchèque très populaire, Anna Zagorová, est l'interprète de la chanson intitulée
Baron Prášil,
dans laquelle elle chante notamment. En gros, cela nous donne quelque chose comme « les admiratrices se pressent à la porte, mais moi, cela fait belle lurette que je ne crois plus à tes histoires, épargne-moi, je te connais déjà depuis quelques vendredis ». C'est précisément cette dernière expression qui nous intéresse. En réalité, il s'agit d'une expression difficilement traduisible en français. Traduit littéralement, on obtient en effet « quelques vendredis ». Notons qu'en tchèque, cette expression est employée au singulier alors que son sens réel est que l'on fait quelque chose ou que l'on connaît quelqu'un depuis plusieurs vendredis, ou si vous préférez, depuis un certain temps déjà relativement long qui s'étend sur la durée. Bien entendu, cette notion de temps est relative. Elle peut varier. Par exemple, pour faire comprendre que l'on travaille depuis déjà pas mal de temps, quelques années dans une entreprise, les tchèques peuvent dire
« Už tam pracuji nějaký pátek »,
soit littéralement « Je travaille là-bas depuis quelques vendredis déjà ». Souvent, cette expression est aussi employée lorsque l'on n'est pas certain de la durée précise d'une chose, du temps qu'elle a déjà duré ou qu'elle va encore durer. Les Tchèques disent ainsi parfois
« Už si to přesně nepamatuji, ale je to nějaký pátek ».
Soit « Je ne m'en souviens plus précisément, mais cela fait quelques vendredis ». Autrement dit, cela fait déjà un certain temps suffisamment long pour que je ne m'en souvienne plus. Autre exemple, lorsqu'il est demandé à un sportif de haut niveau professionnel pendant combien de temps il pense encore prolonger sa carrière, celui-ci peut faire comprendre son hésitation en affirmant
« Mohl bych ještě nějaký pátek pokračovat ».
Soit « Je pourrais encore continuer quelques vendredis », c'est-à-dire « Je pense rester en activité encore 1, 2, 3 ou 4 ans, mais aujourd'hui je suis incapable de vous l'affirmer précisément car je ne le sais pas moi-même ». Précisons que vendredi peut être remplacé par un autre mot désignant une unité de temps. Ainsi, cela donnerait
« Mohl bych ještě nějaký rok pokračovat ».
Soit « Je pourrais encore continuer quelques années » ou
« Už si to přesně nepamatuji, ale je to nějaký měsíc ».
Je ne m'en souviens plus, mais cela fait quelques mois. Néanmoins, si cela est tout à fait possible, l'expression la plus courante reste quand même
« Nějaký pátek ».
Quelques vendredis.
Neskoušej to na mě, vždyť já nějaký ten pátek už tě znám.
Concernant l'étymologie des noms tchèques des jours de la semaine, il nous faut toutefois commencer avec le dimanche.
Neděle.
Certes, septième et dernier jour de la semaine civile, mais premier jour des semaines chrétiennes, juives et musulmanes. Mais là aussi, vous allez vite comprendre pourquoi nous commençons avec le dimanche. Vous le savez, depuis une décision prise par les Romains au IVe siècle, le dimanche est considéré comme un jour de repos. On ne travaille donc généralement pas ce jour-là, on ne fait même rien parfois. En tchèque, ne pas faire, ne pas travailler, se dit
« nedělat se ».
Dimanche est donc littéralement le jour où l'on ne fait pas.
V neděli se nedělá.
Dimanche
neděle
tire donc son origine du verbe
nedělat,
ne pas faire. À propos du dimanche, notons qu'en tchèque, il est parfois synonyme de semaine.
Týden.
Par exemple, au lieu de « je serai, resterai là-bas trois semaines »,
budu tam tři týdny,
on peut dire
« budu tam tři neděle.
Je serai là-bas trois dimanches ». De même, et il s'agit là d'un usage officiel, la période de six semaines qui suit l'accouchement d'un nouveau-né et pendant laquelle la maman se remet de l'épreuve s'appelle en tchèque
« šesti neděli »,
soit littéralement « les six dimanches ». Mais revenons-en aux origines des noms des jours de la semaine. Origine d'ailleurs relativement simple.
Pondeli.
Lundi est en effet une abréviation de
Pondeli,
c'est-à-dire après dimanche.
Uteri.
Mardi tire lui son origine d'un mot de vieux tchèque
Vteri,
qui signifiait deuxième, initialement deuxième jour après dimanche.
Středa.
Mercredi indique lui qu'il s'agit du milieu de la semaine. Et en tchèque, milieu se dit
střet.
De fait, les semaines chrétiennes et juives commençant le dimanche, il s'agit du quatrième jour de la semaine. Toutefois, il existe ici un petit paradoxe. En tchèque, en effet, jeudi se dit
čtvrtek.
Or, ce mot indique qu'il s'agit du quatrième
čtvrtý
jour de la semaine, semaine civile cette fois, qui démarre le lundi et donc quatrième jour après le dimanche. Et il en est de même pour le vendredi,
pátek,
qui est le cinquième
pátý
jour de la semaine, le cinquième jour après dimanche. Enfin,
sobota,
samedi, sixième jour de la semaine légale, tire comme en français son origine de l'hébreu, c'est le jour du sabbat, le jour de repos assigné au septième jour de la semaine juive. Ainsi, le moment est venu aussi pour nous de nous reposer. C'est donc ainsi que s'achève ce tchèque du bout de la langue consacré aux appellations tchèques des jours de la semaine. Et en attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
courrier des auditeurs. Alexis Rosenzweig.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce courrier qui sera cette semaine entièrement consacré à une triste nouvelle pour tous les radio-écouteurs et pour tous nos fidèles auditeurs. En effet, vous le savez depuis quelques jours, c'est officiel désormais, Radio Prague arrêtera de diffuser en ondes courtes à partir du mois de février 2011. Ce sera la dernière émission le 31 janvier 2011. Je vous lis tout de suite le communiqué officiel de la direction de Radio Prague. Radio Prague, émission internationale de la radio publique tchèque, cesse d'émettre en ondes à partir du 31 janvier 2011, une décision prise en raison de la baisse du budget. Le ministère tchèque des Affaires étrangères, qui finance Radio Prague, a baissé de manière significative le budget pour l'année 2011, suite aux mesures d'économie du gouvernement, dont le but est de réduire le déficit public. La diffusion devrait être maintenue en 6 langues. La plateforme de base de la diffusion devient Internet. Radio Prague sera également diffusée en Europe par satellite et grâce à des stations partenaires à l'étranger. La diffusion en FM, en modulation de fréquence, à Prague, en français, sur Radio France Internationale, en anglais, en allemand et en russe, sur la radio Regina, est maintenue. La nouvelle grille et autres potentiels changements seront communiqués en janvier. Voilà pour le communiqué officiel de la direction de Radio Prague. Nous avons reçu beaucoup de courriels et de courriers à propos de ce potentiel arrêt de la diffusion en ondes courtes. Je vous en lis notamment un de notre très fidèle auditeur Jean-Michel Aubier, qui s'inquiétait de cette décision il y a déjà quelques jours et nous a écrit le 9 décembre. Bonsoir à tous. Cette fois, l'information sur l'arrêt des ondes courtes a été confirmée par Monsieur Krupička, le directeur de Radio Prague. Je pense que vous l'annoncerez bientôt dans vos émissions, voilà qui est fait, et que vous demanderez aux auditeurs de vous soutenir en continuant de vous écouter sur Internet ou sur WRN. Malheureusement, beaucoup d'auditeurs écoutent Radio Prague parce que Radio Prague émet sur ondes courtes. Disposant pourtant d'Internet, écouter online ne les intéresse pas. Je suis depuis plus de 30 ans un fan de l'écoute des radios internationales. J'étais donc il y a longtemps un fan des ondes courtes car seul ce vecteur permettait de les écouter. Aujourd'hui, je suis toujours un fan des stations internationales, mais le temps change et Internet dispose d'avantages inégalés. Vivant surtout le soir, voire la nuit, il m'arrive très fréquemment d'écouter les programmes à la demande vers 1h du matin, alors que les programmes sur ondes courtes vers l'Europe sont terminés. Je suis un peu surpris de la faible mobilisation des salariés du secteur public. Certes, la République tchèque n'est pas la France, où l'on fait grève comme on va chercher son pain à la boulangerie, mais quand même, les mesures d'austérité sont plus drastiques que celles qui frappent le secteur public français. Petite question, les fonctionnaires ont-ils, comme en France, la garantie de l'emploi, ou l'ont-ils eu dans le passé ? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faudrait se demander à des spécialistes et surtout que le code du travail est en train de changer. Mais aujourd'hui, les fonctionnaires en République tchèque n'ont plus la garantie de l'emploi. Voilà, c'était le courrier de Jean-Michel Aubier qui connaît très bien les ondes courtes, qui est un collaborateur des émissions DX, notamment de La Voix de la Turquie et de Radio Bulgarie Internationale. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Radio Prague continue à diffuser sur Internet, mais pour tous les fidèles radio-écouteurs qui sont habitués à ce système de carte QSL, une bonne nouvelle venant de la direction de Radio Prague, puisque elle a décidé de maintenir l'envoi des cartes QSL avec une nouvelle série qui vient de sortir et qui est consacrée au château et différentes murailles en Bohême et en Moravie. Je les ai sous les yeux avec notamment le très beau château de Hradec nad Moravice. Donc le système des QSL continue et que ceux qui nous écoutent sur Internet pourront envoyer des rapports d'écoute, de l'écoute sur Internet et recevoir à partir de ce moment-là des cartes QSL. J'en profite pour adresser un très très grand merci. Comme le disait Jean-Michel Aubier, nous allons avoir besoin de votre soutien dans ces moments difficiles. Avant de connaître la nouvelle grille de Radio Prague et le détail des prochains changements, on a reçu beaucoup de rapports d'écoute, des ondes courtes, et j'espère que vous serez nombreux à en envoyer lorsque nous serons seulement sur Internet et sur satellite. Merci donc, merci beaucoup à Monsieur et Madame Paul Jamais, vous le savez, ils sont à Argenteuil en France, Jean-Michel Aubier que j'ai déjà cité, mais également Jacques Augustin qui nous a encore écrit de sa très belle écriture et des rapports d'écoute envoyés par Internet qui nous viennent du Maghreb et qui sont signés notamment Farid Boumechal d'Algérie, Hervé Brien qui nous écrit que ce courrier est le 100e qu'il nous transmet depuis ses débuts d'écouteur de Radio Prague. Rendez-vous dans quelques années pour le 200e, écrit-il. Nous l'espérons bien. Merci beaucoup, monsieur Hervé Brian. Nous savons que vous aimez beaucoup Radio Prague. Nous espérons vous retrouver tous les jours sur Internet à partir du début du mois de février. Ça va être une phase un peu difficile, mais c'est une nouvelle ère qui commence, comme le dit le directeur de Radio Prague, monsieur Krupička. Et que des gens qui nous écrivent leur rapport régulier, leur rapport d'écoute, comme André Bio, qui, je le vois, nous a envoyé un simpo par email, continueront à nous soutenir. Et je pense que vous le savez, la radio slovaque arrête également d'émettre en ondes courtes. Donc c'est un moment où ces stations internationales vont avoir besoin de soutien. Vous le savez, en France aussi, à Paris, Radio France Internationale a eu quelques difficultés avec ses rédactions en langue étrangère. Et j'en profite pour dire un dernier merci à Jeannot Schackmann qui nous écrit un email d'Armentière avec un synpo de 44233. J'ai passé un très agréable moment, écrit-il, en votre compagnie. Et je remercie toute l'équipe de Radio Prague. Pouvez-vous m'envoyer une QSL de bonne réception? Ce sera ma première. Je vous remercie beaucoup. Eh bien oui, nous l'enverrons. Et ce sera une de la nouvelle série avec les châteaux de Bohême et de Moravie. C'est une triste nouvelle, mais ne désespérons pas. Radio Prague continue à exister et continue pour l'instant à exister dans 6 langues différentes, dont le français. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. À très bientôt et très bon week-end à l'écoute de Radio Prague.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1.30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.